Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Bonjour à toutes et à tous. Laurine Mouton, conseiller nationale de la Fédération française. Aujourd'hui, nous accueillons Georges Voileau, grand maître national élu de la Fédération française du droit humain. Nous allons parler avec lui de ses projets pour le droit humain et notamment ceux de la Fédération française. Comme à l'accoutumée, nous avons confié le soin à notre journaliste Marc Dessouterre de conduire cet entretien. C'est à vous, Marc.
Bonjour à tous. Mais avant de nous entretenir avec Georges Voileau, le nouveau grand maître national, nous commençons cette émission avec une rubrique que nous avons lancée il y a quelques mois, le point d'actualité sur la Fédération française. Alors, que s'est-il passé de notoire et que souhaitez-vous nous signaler, Laurine ?
Eh bien, après le convent de la Fédération française, une nouvelle année maçonnique s'ouvre devant nous, pleine de projets et de réalisations concrètes à venir. Aujourd'hui, je ne donnerai que quelques rendez-vous à ne pas manquer. Les salons du livre maçonnique d'abord. À Paris, le 17e salon maçonnique du livre qui se déroule à la Bellevilloise, les 16 et 17 novembre. À Lyon, les 11 et 12 octobre dans le cadre de rencontres culturelles maçonniques. Et enfin, à Nantes, les 19 et 20 octobre prochains. Je rappellerai également la journée portes ouvertes de la Maison Maria de Rheims, siège de la Fédération française du droit humain, rue Pinel à Paris, le dimanche 8 décembre, ouverte au grand public.
Merci Laurine. Donc à nous deux, Georges Voileau. Vous avez été récemment élu grand maître national de la Fédération française du droit humain lors du convent qui s'est tenu fin août. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent que le convent, c'est l'Assemblée générale du droit humain. Alors, ma première question est simple. Qui êtes-vous, Georges Voileau ?
Eh bien, je suis Georges Voileau. Je suis de Nantes, la belle ville de Nantes, avec son voyage à Nantes et puis son pas de côté. J'y habite depuis plus de 50 ans. J'y ai fait mes études avec une petite escapade à Clermont-Ferrand où j'ai passé un diplôme d'ingénieur. Et puis, c'est à Clermont-Ferrand que j'ai été initié en 1978. Mais c'est quand même à Nantes où j'ai toute ma carrière maçonnique, entre guillemets, s'est élaborée. Et j'ai passé mes différents grades à Nantes en prenant les présidences d'ateliers symboliques ou de haut grade.
Alors, vous nous avez dit que vous étiez ingénieur de formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre itinéraire professionnel ?
J'ai fait toute ma carrière dans les travaux publics. Et j'ai eu la chance de faire un métier que j'ai aimé avec passion et qui me l'a rendu. J'ai pu approcher plusieurs facettes de ces métiers d'aménageur du territoire, de la construction de routes à la déconstruction de bâtiments, ou même à d'extraction et de la vente de matériaux sur tout le Grand Ouest.
Et pour cerner complètement votre état civil, vous êtes marié, vous avez des enfants ?
Absolument, je suis marié avec ma femme, Michèle, qui est aussi une sœur. Nous avons trois enfants, de 32 à 28 ans, et puis deux filles et un garçon. Michèle a été initiée en 1986, nous sommes dans le même atelier. C'est la preuve, si c'était besoin, que la maçonnerie peut se vivre en couple au droit humain, puisqu'on est mixte un peu quand même. Et puis, nos parcours sont un peu différents, mais la maçonnerie permet cela, des cheminements différenciés.
Ouais, chacun sa route, chacun son chemin, comme dit la chanson du film « Un indien dans la ville ». Mais est-ce compliqué de mener de front à la fois la vie professionnelle, la vie familiale et l'engagement maçonnique ?
J'ai fait au mieux. Ça n'a pas été toujours facile de mener ces trois vies de front, mais ma femme et mes enfants m'y ont beaucoup aidé. La maçonnerie m'a construit, elle, en permanence. Et la plupart de mes actions maçonniques et profanes ont toujours été à l'aune de ce que j'avais appris dans nos loges et à l'aune de cet humanisme que prône la franc-maçonnerie.
Alors, la question que l'on se pose, c'est bien sûr, comment vous êtes entré en franc-maçonnerie ? Quel est le déclic qui vous a poussé un jour à frapper à la porte du temple, selon l'expression consacrée ?
Au sein de ma famille proche, il y avait des maçons, je les ai regardés vivre et ils m'ont attiré vers la porte du temple. Et c'est pour ça que j'ai frappé à cette porte et qu'ils m'ont accompagné sur ce chemin. Et je suis entré au droit humain par cooptation, comme beaucoup d'entre nous.
Alors, cooptation, mais il y a aussi les candidatures spontanées. Et tous les renseignements sont accessibles d'ailleurs sur ce mode de candidature, sur le site et l'application smartphone. Laurine nous le rappellera tout à l'heure. Donc, vous choisissez le droit humain, mais pourquoi justement cet ordre mixte et international dans une galaxie maçonnique qui compte près de 10 obédiences ?
Eh bien, justement pour ce titre très explicite, le droit humain. Ce titre nous renvoie à une ambition pour l'humanité et à un travail continu pour faire avancer l'ensemble des droits auxquels aspirent tous les hommes et toutes les femmes, tous les êtres humains en fait. Et donc il a fallu énormément de force, énormément de puissance pour mettre en œuvre, pour que nos fondateurs puissent mettre toutes ces idées en place, pour concevoir, imaginer l'ensemble de notre déclaration de principes. Affirmer dans son article premier l'égalité sur toute la Terre des femmes et des hommes en 1893, cela s'appelle quand même avoir une vision prospective à mon avis. Et une vision prospective auquel il faut s'associer encore de nos jours un vrai courage et une volonté de faire pour pas baisser les bras devant l'adversité qui est toujours là.
Il fallait quand même effectivement un sacré culot à cette époque, car la société n'était guère encline à laisser la moindre place aux femmes. Il a fallu donc, comme vous le disiez, de l'audace et du courage pour bouleverser le paysage maçonnique de cette époque, non ?
Oui, et nous devons ce courage à nos fondateurs, Maria de Rheims, Georges Martin, puis avec d'autres francs-maçons comme Eugène Piron ou Marie Bonneviel, lesquels se posaient déjà cette question fondamentale, à mon avis. Pourquoi des hommes ne peuvent-ils pas accepter que les femmes aient les mêmes droits que ceux qu'ils usent et dont ils abusent parfois ?
Alors, 126 ans plus tard, vous qui êtes à la tête de cette fédération française, Georges Wallo, vous diriez que le pari de Maria de Rheims et Georges Martin est réussi ?
Le droit humain est aujourd'hui présent dans 63 pays, sur les 5 continents, et compte environ 35 000 membres. 17 000 sont à la Fédération française. Mais nos principes affirmés dès l'origine dans notre constitution internationale restent d'actualité. La liberté absolue de conscience de chacun pour être initié avant même l'écriture de la loi de 1905 sur la laïcité montre la volonté du droit humain d'aller vers le maximum, comme c'est écrit dans notre constitution internationale, le maximum de développement moral, intellectuel, spirituel qu'il est possible d'atteindre. En peu de mots, ce socle de notre ordre acte la volonté de modifier profondément les comportements sociaux et d'œuvrer en permanence à l'égalité de la femme et de l'homme.
Alors justement, Georges Wallo, venons-en à l'action qui sera la vôtre à la tête de cette Fédération française du droit humain. J'ai retenu de votre discours de politique générale, appelons-le comme ça, pour une meilleure compréhension de nos auditeurs, j'ai retenu cette phrase « Rechercher le progrès est une transgression ». Le progrès, rappelons-le, c'est le progrès de l'humanité auquel travaille la franc-maçonnerie générale et le droit humain en particulier, mais qu'entendez-vous par transgression ?
La création du droit humain procède déjà d'une transgression, l'admission des femmes en franc-maçonnerie. À l'époque, ça a été un schisme. Les loges qui ont permis l'initiation de Maria de Rheims ont été dissoutes. Et c'est la raison d'être, en fait, du droit humain, l'admission des femmes en maçonnerie. Après, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que le progrès ? Le progrès, c'est une transformation vers le mieux, dans un domaine particulier, une évolution vers un résultat satisfaisant. C'est aussi l'amélioration de quelqu'un dans des domaines de connaissances. Et moi, nous restons persuadés que ceux qui imaginent quelque chose sont immédiatement dans une transgression par rapport au système en place. À titre professionnel, j'ai mis en place des systèmes de fonctionnement, des chaînes de fabrication, et à chaque fois, nous avons transgressé un état pour passer à un autre état. Et à chaque fois, nous avons découvert des choses nouvelles. Et les hommes se sont mieux portés. La transgression existe.
Et vous pensez que cette transgression peut s'appliquer au droit humain ? De quelle manière ?
Cette démarche appliquée au droit humain est encore, je trouve, plus importante, plus essentielle encore. En effet, agir pour ouvrir des droits nouveaux à des êtres humains qui en sont privés est transgressif par un état, par rapport à un état de fait. Et donc, et par rapport à ceux qui ne veulent pas de changement. Par exemple, le mariage pour tous est bien l'exemple d'une transgression utile est nécessaire à la quête de droits nouveaux pour l'ensemble des citoyens. La nouvelle loi sur la PMA en est une autre. Pour que ces droits avancent, les maçons du droit humain s'inscrivent dans une action de long terme et d'une manière continue. Par exemple, prôner la liberté de conscience absolue et dire que croire ou ne pas croire est possible, c'est une transgression pour beaucoup.
Alors, juste au titre, vous venez d'évoquer une loi comme la PMA, la procréation médicale assistée. Cela permet de rappeler que le droit humain a mis en place depuis de longues années déjà une commission bioéthique. Quels seront ses thèmes de travail cette année ?
Alors, je rappelle que récemment, nous avons traité des sujets tels que la place du mort, ou poser la question qui fait sourire, mais qui n'est pas moins sérieuse et pas banale, qui fait les bébés. Et cette année, nous étudierons les enjeux éthiques des analyses génétiques, et nous chercherons aussi à savoir à qui appartiennent nos données de santé, tout en approfondissant les problèmes liés à des greffes utérines et à la médecine du cerveau.
Alors, une autre de vos commissions revêt une importance essentielle en direction du grand public, c'est la commission perspective sociétale, véritable réflexion prospective sur les évolutions de la société. Alors, Quels seront ces thèmes cette année aussi ?
Deux thèmes essentiellement, arrêtés démocratiquement lors du convent. Le premier thème, c'est l'individu transparent face du fait de la technologie. Derrière tout ça, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr. Et sur la transition écologique, comment la préparer pour la réussir. Mais il y a une autre commission qui nous interpelle et qui nous oblige à travailler beaucoup, c'est la Commission Europe. Cette commission va continuer à interpeller les parlementaires européens sur leurs projets. Parce que la garantie des droits humains nous préoccupe et nous sommes persuadés que le vrai lieu des décisions est l'Europe pour notre monde occidental. Il faut savoir dépasser nos frontières, je crois, et essayer d'orienter les choix politiques. Il n'y a qu'un seul endroit pour ça, l'Europe et le Parlement européen. À preuve, par exemple. En ce moment, une sous-commission a été mise en place avec Monsieur Chinas à la tête de cette commission. Cette commission est en charge de la question migratoire. Alors au début, on peut penser que c'est bien. Mais après, quand on lit le titre de cette commission, c'est « Protection du mode de vie européen ». C'est un titre interpellant parce que ça peut mener à des discriminations. Et donc nous serons très vigilants aux travaux de cette commission afin que ceci n'aboutisse pas à la construction de murs et à laisser des hommes et des femmes en déshérence. Nos loges seront informées sur cette démarche.
Alors, sans oublier aussi, bien sûr, tout le travail de vos loges qui, chaque année, traite des thèmes les plus divers, tant sur le plan sociétal que philosophique. Et là, il y a du pain sur la planche, sans jeu de mots.
Sans jeu de mots, mais les maçons sont travailleurs. Parce que près de 10 000 planches, autrement dit des travaux écrits pour vos auditeurs, ont été élaborés, lus, débattus dans nos ateliers et lors de la dernière année maçonnique. Cette masse de travaux est le gage de notre intéressement sur le monde et la preuve d'un vrai fourmillement intellectuel. Seront abordées cette année deux questions au convent. Une question maçonnique dont le sujet est la recherche de la vérité en franc-maçonnerie serait-elle si différente de la recherche de la vérité dans les domaines de la foi, de la science ou de la philosophie ? Et une question sociale dont le thème est « Dans un monde où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, quelle proposition pour plus de justice sociale ?» Et moi qui suis un adepte de la pyramide inversée, vous imaginez 17 000 cerveaux connectés sur ces thèmes et vous aurez une idée de la profondeur de la réflexion.
Et qu'en est-il de la communication externe de toutes ces réflexions ? On disait la franc-maçonnerie discrète plutôt que secrète, mais ça c'était au XXe siècle, car le droit humain, comme les autres obédiences, communique aujourd'hui à tout va et avec les outils du XXIe siècle.
Absolument. Nous disposons d'un site internet, d'une application smartphone et d'une revue, papier, parce qu'il en faut un peu, Perspective, les cahiers du droit humain. Cette publication s'adresse à tous les lecteurs, maçons ou non. On peut s'y abonner par le biais de notre site ou de notre application. Le troisième numéro vient de sortir. Son thème est Vérité, avec un S, et Vérité au singulier.
Et vous comptez aller plus loin parce que la société du XXIe siècle, c'est aussi celle de l'image, des vidéos ?
Oui, oui. Nous réfléchissons pour aller plus avant dans ce type de communication. Toutes nos conférences publiques sont enregistrées et sont disponibles sur le site. Mais pour autant, nous ne devons pas perdre notre âme. Nous sommes dans l'oralité et donc pas dans le visuel. C'est pas notre culture. Alors, on doit donc concevoir un nouvel objet, un nouvel outil qui réponde à l'ensemble de nos critères maçonniques et qui pourra montrer notre véritable visage, celui d'être humain dans la cité, capable de discourir sur des symboles, comme sur des frais, comme sur l'état du monde ou des actes sociaux.
Alors, si je comprends bien, l'objectif pour 2020, c'est une meilleure identification du droit humain dans le paysage maçonnique ?
Oui, oui. Nous devons être reconnus partout comme maçons du droit humain, ordre, mixte, international, dès que nous prenons la parole. C'est évident. Au cours des deux dernières années, avec Alain Michon en tant que grand maître, les loges ont réalisé un travail prospectif et ont imaginé ce que devait être la Fédération française demain. Il ressort de ce travail la volonté d'aller vers l'extérieur en portant notre message de fond. En finale, notre objectif est de rendre notre message plus intelligible, plus visible, sans perdre notre sens. Et en 2020, nous ferons un bilan ensemble.
Alors voilà pour l'externe. En interne, vous allez procéder également à de profondes transformations.
C'est l'objectif des chantiers ouverts depuis 2 ans. Moderniser nos outils de suivi, administratifs, initiatiques, et puis réfléchir à une manière globale de mieux gérer l'ensemble de nos fonctionnements. Mais je ne vais pas m'étaler sur ces sujets parce que ça n'intéresse pas nos auditeurs.
Alors, nous parvenons au terme de cette émission. L'autre jour, à la fin de votre discours programme, lors du convent, vous avez cité le philosophe et écrivain Michel Serres. penser, c'est anticiper, disait-il, sentence que je rapprocherai aussi de gouverner, c'est prévoir, puisque vous êtes désormais aux commandes de la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Mais pourquoi Michel Serre vous est-il inspiré ?
Michel Serre m'a inspiré d'abord parce qu'il est brillant, parce qu'en plus il a fait des livres petits, faciles à lire. Donc c'est bien. Et je pense aussi que le droit humain est une école de pensée. Nous pensons tous que le droit humain est une école de pensée. Nous devons donc anticiper ensemble dans le nouveau cadre que nous venons de tracer. Et dans ce cadre, nous allons pouvoir dessiner un nouveau tableau. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que ce tableau soit un chef-d'œuvre, jusque dans ses moindres détails, sans aucune ambition pour nous, mais avec l'ambition pour le droit humain. Ce chef-d'œuvre, nous devrons savoir l'effacer pour en refaire un autre. Et comme dit Michel Serre, relire et relier en permanence.
Relire et relier, ce seront donc les mots de la fin. Merci Georges Voileau et belle année maçonnique à vous. C'est à vous Laurine pour la conclusion de cette émission.
L'émission touche à sa fin, en effet. Nous espérons vous voir nombreux lors de nos différentes manifestations et sur notre site, bien évidemment. Il nous reste à vous souhaiter un excellent dimanche. Si vous voulez réécouter cette émission ou en savoir plus sur le droit humain, retrouvez toutes les informations sur notre site en tapant « droit humain » sur votre moteur de recherche. Pour nous contacter, écrivez-nous à « droit humain 9 rue Pinel 75 013 Paris » ou par email à accueil@apfdh.org. Nous assistons pour la réalisation de cette émission Dany Journeau et Alain Joubert pour la partie technique. Merci à toutes et à tous et à bientôt.